Bienvenue dans la deuxième partie de Y'a une vie après Transistor, l'épisode spécial première fois de Y'a une vie après Normal. Retrouvons tout de suite Anne-Laure Mercier avec une première question pour le moins directe.
T'aurais voulu être journaliste, hein ?
Ah oui, moi, c'était quand j'étais au lycée, c'était vraiment. J'avais une de mes meilleures amies au lycée français de Pékin, qui était Justine Rochaud, qui est aussi passée par l'ENS. Et son père était le correspondant de France 2. Donc j'avais un peu ce modèle-là du grand reporter. Du coup, je crois que j'ai fait mon stage de troisième avec lui. Je suis encore retournée en stage parce que je voulais retourner aussi à Pékin. Donc je suis aussi retournée en 2009, donc juste avant d'entrer à l'ENS. Et non, c'est une idée qui m'a taraudée jusqu'à peut-être 6-7 ans où j'ai lâché ça. Mais pendant très très longtemps, mon idée c'était de devenir journaliste.
Et Transistor, c'était le moyen de démarrer vraiment ou tu avais déjà fait du journalisme avant?
J'avais eu ces petits stages au bureau de France 2 à Pékin, mais c'était, je ne faisais pas vraiment moi du journalisme. Je crois que je faisais une revue de presse, mon dernier stage. Bon, je ne parle même pas du stage en troisième, parce que voilà, on va dire que c'est de l'observation. Mais avant Transistor, j'avais pas de vraie expérience de journalisme. Non, je pense que c'est... Ouais, j'avais juste ce fantasme, quoi.
Tu as dit que tu étais en Chine, donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours d'avant Transistor ?
Donc en fait, j'avais... Donc oui, le journalisme, tu vois, dès le lycée, enfin collège-lycée, je pense que j'avais déjà ce modèle-là du père de mon ami qui était grand reporter. Je pense que j'avais des idées de... Je me voyais, tu vois, partir à l'aventure, le côté... Enfin bref, c'était un truc que je fantasmais un peu au lycée. Mais comme j'étais quand même pas très décidée sur comment m'y prendre, comment... en gros, j'ai fait une prépa littéraire parce que je venais de la filière L, feu, la filière L au lycée, et que c'était un peu, voilà, le débouché naturel, enfin voilà, quand on avait à peu près des bons résultats. Du coup, j'étais allée en prépa à Fénelon. La spécialité, anglais, parce que je pense que j'avais passé pas mal d'années à l'étranger, donc c'était là. Déjà, j'aimais bien ça, et puis en plus, c'était là où j'avais le plus de facilité. Et puis j'avais cette prof dont je viens de te parler, la géniale Marie-Laure Legros, qui a eu un impact énorme, tu vois, c'était un modèle pas juste intellectuel, mais aussi un modèle de vie, une femme très libre, très indépendante, bref. Mais en fait, l'année où je suis entrée à l'ENS, j'avais aussi passé le concours de Sciences Po pour entrer directement en master. Et je ne sais pas si ça existe encore, mais on pouvait demander à entrer en master journalisme à Sciences Po. J'étais prise aux écrits et à l'oral, où j'ai passé un entretien assez déstabilisant parce que je me rappelle, il y avait un journaliste qui m'avait dit « Alors vous, donc vous avez fait un stage à France 2 à Pékin, en fait vous, votre truc c'est les paillettes. » Enfin, voilà. Je me rappelle très bien de cette question un peu, tu vois, pour me déstabiliser. Bon, moi j'avais 20 ans. J'essayais de me défendre comme j'ai pu, mais quoi qu'il arrive, ils m'ont pris en affaires internationales et pas en journalisme. Et alors ça ne m'a pas plu du tout. Donc je suis partie à l'ENS Lyon, mais toujours sans être vraiment convaincue que ma voie, c'était la recherche. Et donc moi, j'y suis rentrée. Bon, ça me plaisait de toute façon de continuer... de continuer des études en anglais. Alors là, tout d'un coup, en fait, cette matière que j'avais prise un peu par facilité, pas par défaut, mais un peu quand même par facilité, l'anglais, ça devient ma spécialité de master. Donc, ça m'a plutôt amusée puisque j'ai fait en fait 2 ans de master, la première année à l'ENS, donc où j'ai commencé Transistor, parce que j'avais quand même cette... Ça me taraudait quand même cette idée de journalisme. Et dans le même temps, j'ai découvert ce qu'on appelle, je pense sans doute encore aujourd'hui, les études anglophones. C'était génial. Je suis partie au Canada, du coup, la deuxième année.
Et du coup, Transistor, ça a été, c'est dès ta première année, donc, que vous avez créé Transistor avec des amis de cette première promo, en 2009, je crois.
C'était en 2009. Je ne me rappelle pas bien comment ça s'est fait, mais il me semble que c'est d'abord Thibaut Sardi qui m'en a parlé. Il habitait en fait aussi dans le bâtiment B, un appartement juste à côté du nôtre, et avec Imad, je crois qu'il s'appelle, c'est ça? Il me semble que c'est eux qui... je les ai vraiment perdus de vue, mais c'est dommage. Je pense que c'est eux qui avaient cette idée de radio, puis on s'est croisés assez vite avec Thibaut, notamment au week-end d'intégration. Il me parle de ça, bon bah moi je trouvais l'idée vraiment géniale.
Et le format radio, c'est un format que tu aurais choisi pour faire du journalisme, même sans transistor?
Je ne sais pas si je connaissais bien le média, le médium, média radio avant. Enfin, mes parents, tu vois, ont toujours écouté France Inter le matin. La radio était très présente, mais moi, je suis pas sûre que je faisais déjà la démarche d'aller écouter, tu vois, pendant mes études. Je suis pas sûre que j'allumais beaucoup la radio. Mais en fait, c'était quand même une fois qu'il y a eu cette idée radio. Je peux pas dire si ça venait avant Transistor ou si c'est Transistor. Mais ensuite, quand j'ai continué après Transistor de vouloir poursuivre dans le journalisme, c'était la radio mon objectif. C'était justement, il n'y avait pas le côté paillettes de la télévision de France 2, un format beaucoup plus libre. Les nuances que tu peux exprimer à travers la voix, que tu peux faire la part d'improvisation, de spontanéité que tu peux avoir quand tu fais des interviews à la radio. Et tu vois, tous les blancs, par exemple, les silences, les hésitations, enfin, tout ce qui ne passe pas par écrit, tu vois, ça, je trouvais ça génial. Oui.
Et justement, pour tes toutes premières fois derrière le micro à Transistor, c'est quel type de format que tu as mis en place, quel type d'émission?
Première émission, donc moi je m'occupais de Transversar, je ne sais pas si elle existe encore, donc c'était l'émission culturelle. Donc il y avait une émission culturelle, je pense qu'ensuite, en fait, je ne me rappelle pas bien comment ça s'est passé, mais on a dû se... Je pense que voilà, il y a eu ces réunions, tous ceux qui étaient intéressés par l'idée de faire de la radio, bon, ben, on s'est tous retrouvés. C'est devenu une association, donc je me rappelle que Thibaut était le président. Puis chacun a un peu dit les émissions qu'il voulait faire. Et moi, je pense que j'avais dû dire culture, alors pourquoi, je ne sais pas bien. Mais je pense qu'il y avait des émissions d'histoire. Chacun aussi venait avec son bagage. Et on était trois, en fait, à avoir dit qu'on voulait faire une émission culture, donc qui s'est intitulée Transversar. Donc c'était avec Nina et Swan. Il me semble qu'ils étaient en lettres tous les deux. En tout cas, Nina est devenue historienne de l'art, romancière, Nina Léger. Donc on avait cette émission. Je me rappelle pas de la première fois, en tout cas, malheureusement, du micro devant. Non, j'ai pas d'anecdote là-dessus. Je me rappelle de quelques émissions, une émission au musée des Beaux-Arts de Lyon. Où on avait interviewé, alors est-ce que c'était un artiste ou un commissaire? Ça m'avait beaucoup marqué. Et puis c'est plus tard qu'il y a eu l'idée de l'émission Il y a une vie après normale avec Thibaut. Et ça, bon, ben, c'est parce qu'on c'était très un peu égoïste. C'est que nous, on voulait devenir journaliste, on n'était pas forcément sûr que la voie de la recherche et de l'enseignement c'était fait pour nous. Donc, on voulait rencontrer. C'était aussi une manière de rencontrer d'autres gens qui avaient fait des parcours atypiques, en tout cas pas le parcours classique quand on est à l'ENS. Donc, c'était une super manière pour nous de rencontrer d'autres gens. La première émission, c'était Nicolas Demorand, donc journaliste à France Inter. Celle-là, pour le coup, je m'en rappelle, parce qu'il nous avait invités à assister au journal télévisé. Télévisé, n'importe quoi, au journal, à la matinale. Et ensuite, on l'avait interviewé dans son bureau, il y avait des piles et des piles de livres. Je me rappelle très bien de tout ce qu'il nous avait dit sur son expérience, puisqu'il avait enseigné d'abord. Il avait été prof de lettres. Puis qu'en fait, l'idée de faire la discipline, genre, crache ton chewing-gum, tout ça, enfin, il ne pouvait pas, quoi. Et non, non, ça, s'il y a une émission dont je me rappelle, c'était celle-là.
Eh ben aujourd'hui, c'est donc il y a une vie après Transistor. Donc tu nous confirmes qu'il y a une vie après Transistor. Quelle a été la direction de ta vie après Transistor? Est-ce que Transistor a eu une influence sur ta vie d'après?
Bah, j'ai eu deux expériences de radio après Transistor. Donc l'année suivante, moi j'étais en deuxième année, donc quand on ces moments où on part à l'étranger, en tout cas pour les sections de langue. Donc j'étais à Montréal et j'ai travaillé dans une radio communautaire qui s'appelait Radio Centre-Ville. C'était une radio surtout écoutée par les immigrés. Il y avait des programmes dans toutes les langues, mais moi, bon, bah, j'avais un programme en français. Et puis, voilà, on m'avait donné le programme un peu par défaut disponible. Il fallait faire une émission sur la santé, de vulgarisation sur la santé. Donc, j'y connaissais absolument rien, mais bon, c'était de la vulgarisation et très, très amateur, hein. C'était une radio voilà, associative, communautaire, qui reposait vraiment principalement sur des bénévoles. Donc, ça, c'était hebdomadaire. J'avais une émission, je crois, le jeudi matin à 7 heures. Il fallait que je me lève très, très tôt. Je crois qu'une fois, on a interviewé une patiente atteinte d'un cancer. C'était quand même parfois un peu dur. Sur, tu vois, l'accès aux soins au Québec. Je me rappelle, j'avais voulu ajouter une petite section météo parce que ça m'amusait. Puis au Canada, tu vois, il y a toujours des températures extrêmes, mais non, ça, il m'avait... Peut-être notre chef, il écoutait l'émission a posteriori et il m'avait sucré la séquence météo. J'étais très déçue parce que je trouvais que ça faisait très, tu vois, très radio pro, quoi, de faire une petite séquence météo. Non, ça, c'était pas passé. Il y avait eu un moment très marrant, un peu de débrouille, un peu comme on avait à Transistor, où on était arrivé à 8h du... Enfin, 6-7h du match, je pense que l'émission commençait à 7h, donc on arrivait avant. Et en fait, donc on était les seuls, on avait les clés de la radio, on était les seuls, quoi, le matin. En fait, l'ordinateur était complètement planté. Tout le système informatique était planté. Et on avait quand même beaucoup de contenu préenregistré, d'interviews, etc. Et donc, il y avait une playlist qui tournait pendant la nuit, qui s'arrêtait à 7h pile. Et ensuite, silence, quoi. C'était à nous de meubler. Sauf que nous, on avait donc une heure d'émission, mais on avait peut-être 20 minutes où on prenait la parole et puis 40 minutes de choses préenregistrées. C'était la panique. Et je me rappelle, par chance, une de nous, ça semble fou aujourd'hui, mais une de nous était allée en concert la veille et avait acheté le CD du chanteur. Et donc, on avait le système son, par contre, marchait, c'était l'ordinateur qui ne marchait plus. Mais on pouvait lancer un CD. Donc, en fait, entre chaque chronique qui durait 5 minutes, à la fin de chaque chronique, on disait « Et maintenant, nous allons écouter Philémon chante ». Et là, on lançait trois chansons donc il s'appelait, c'était un chanteur qui s'appelait Philémon Chante, enfin, son groupe s'appelait Philémon Chante. Et donc on a fait une heure de Philémon Chante. Ouais, un bon souvenir a posteriori. Donc ça a été l'expérience radio après Transistor, juste après. Et puis pas mal de temps. Après, donc je reviens à l'ENS, je passe la GREG. Après la GREG, je ne suis toujours pas sûre à 100% de vouloir aller dans l'enseignement. Puis, il me reste une année d'ENS. J'avais fait 3 ans, il me restait encore ma 4e année. Donc, je pars à Londres. J'ai un stage pour organiser un festival du livre jeunesse. Donc là, c'est un peu la première bifurcation où je m'éloigne du journalisme et où j'essaye autre chose. Et en gros, à travers ce stage pour organiser ce festival du livre jeunesse qui était organisé par l'ambassade de France à Londres, donc les services de coopération et d'action culturelle, en fait, je découvre un peu le monde du livre, de l'édition. De fil en aiguille, je décroche un VIA, donc au bureau du livre à Londres. Et c'est un peu comme ça que je découvre le monde de l'édition, le monde du livre. Et à la fin de mes 3 années à Londres, J'acquiers aussi une petite expérience dans une toute petite maison d'édition britannique. Je rentre l'été en France, en fait, parce que j'ai découvert le monde du livre, mais j'ai quand même le journalisme qui, quelque part dans ma tête. Je rentre en France et je fais 3 mois à France Culture sur la matinale d'été. J'ai un parcours un peu long, j'ai fait vraiment beaucoup de bifurcations, désolée. Mais bref, j'ai fait trois mois à la matinale de France Culture. J'étais celle qui faisait les fiches, qui préparait les interviews du matinalier, du producteur. Où, voilà, à la fois, il fallait trouver des idées d'invités, d'interviews, et puis en même temps, préparer. Donc, je crois que la première émission, c'était sur l'Érythrée. Il y a eu une émission avec Christine Angot, une émission avec Timothée de Fombelle, qui était un auteur jeunesse, où j'avais un peu poussé pour l'inviter. Enfin bref, j'ai adoré cette expérience, mais j'ai aussi vu que la radio, c'était quand même un monde très dur, assez cruel, parce qu'on s'en rend compte quand on est sur la grille d'été. On voit tous les gens qui travaillent à France Culture et le stress en fait d'être reconduit l'année suivante sur quelle émission. Enfin, c'est en fait même les gens qui sont très établis. Enfin, c'est une lutte en permanence. Enfin, c'est un monde très très dur en tout cas, mais en même temps très stimulant avec des rencontres incroyables. Mais bon. C'était à la fois, ça m'a confirmé que j'adorais ça et je me suis en même temps dit, bon, si je ne vais pas dans l'enseignement, il me faut quand même quelque chose, une alternative stable à côté. Et la radio, ce n'est pas l'alternative stable à côté de l'enseignement. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai encore un report de stage, mais bon, il faut que je me décide dans pas très longtemps. J'ai encore un report de stage, mais il faut quand même que je trouve quelque chose, quoi. Parce que sinon, bon, je vais dans le secondaire et puis fin de l'histoire. Donc, je continue après France Culture. Via France Culture, en fait, on me propose d'enchaîner sur une émission de télé de musique classique qui s'appelait Fauteuil d'orchestre, qui était présentée par Anne Sinclair. Ouais, pendant 2-3 mois, je dois faire encore des fiches. C'était assez marrant, mais bon, alors là, pour le coup... Le monde de la télé qui est aussi assez dur, c'était pas du tout mon milieu, quoi. J'ai vraiment aimé bosser avec Anne Sinclair, enfin les fiches, enfin pareil, j'interviewais des chanteurs d'opéra, c'était super, mais travailler dans une maison, une boîte de prod pour la télé, enfin c'était vraiment pas mon milieu. Donc voilà, ça se finit, puis bon bah là j'ai plus de boulot et là, à ce moment-là, j'étais un peu un croisement éducation nationale, radio, mais c'est quand même un monde de requins, comment faire ma place, et l'édition que j'avais découvert via le bureau du livre à Londres et une petite maison d'édition à Londres, mais j'avais aucune expérience dans l'édition française, qui est aussi un milieu très difficile d'accès. Donc, j'avais pas de travail et j'avais ces trois directions, mais bon, sans vraiment savoir. Et puis, bon, via cette personne, Hélène Fiamma, j'apprends qu'il y a un poste qui se libère d'éditrice junior à Flammarion et elle propose de me recommander. Donc, je passe les entretiens, il faut faire un test, etc. Je fais le test et puis je suis recrutée chez Flammarion pendant. En CDI, bon, avec une longue période d'essai, très longue période d'essai, mais en CDI chez Flammarion. Et du coup, ça résout, en fait, les 6 premiers mois, ça a été vraiment très, très dur, mais assez rapidement, en fait, c'était clair que c'était en fait, ce qui était fait pour moi. Je pense que ce qui ne me convenait pas, en fait, dans le journalisme était complètement... trouver sa résolution dans l'édition. Par exemple, ce que je trouvais très frustrant à France Culture, c'était le fait de bosser à fond sur une émission, de faire des rencontres, voilà. Mais en fait, chaque jour, nouvelle invitée. Donc, on ne tissait pas vraiment un lien avec les gens. On tissait un lien avec les gens à la radio, mais c'était vraiment on n'avait pas le temps de creuser un sujet à fond. Enfin, il fallait creuser à fond, mais on avait une journée, une après-midi pour le creuser, et puis ensuite, on passait à l'émission suivante. Alors que là, en fait, dans l'édition, il y avait à la fois le fait de faire parler d'autres gens, d'autres experts, en fait, parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le journalisme, c'est de faire dire des choses à des gens auxquels on n'aurait pas pensé nous-mêmes, qui ont une expertise, qui ont un autre monde, qui ont qui apportent quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes. Et d'un point de vue de généraliste, travailler avec des experts et rendre ça accessible au grand public. Enfin, ça, c'est une démarche que j'aime beaucoup et qui est complètement dans l'édition et qui est complètement dans le journalisme, de travailler avec des gens, de rendre ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent accessible de manière assez large, mais tout en conservant leur singularité, tout en les accompagnant. Et du coup, avec le temps long de l'édition qui permet de construire des vraies relations avec les auteurs. Alors, j'ai perdu ce que j'aimais dans la parole orale, la spontanéité, ce que je viens de dire, les blancs, les nuances dans la voix, tout ça. Bon, on l'a pas, mais on garde aussi un objet. J'ai aussi découvert qu'en fait, j'aimais travailler sur un objet assez concret, travailler avec un designer sur la couverture. Donc voilà, ça c'est le moment où j'ai été recrutée chez Flammarion. C'est le moment qui a un peu mis fin à mes fantasmes de journalisme. Mais jamais j'aurais cru. En fait, moi, j'avais jamais pensé à l'édition avant. Mais le hasard des rencontres a fait que j'ai atterri là. Et donc j'ai passé 5 ans et demi chez Flammarion. L'édition, on va dire que c'est quand même une vocation. Oui, c'est quand même devenu une vocation sur le tard. Mais
est-ce que, pour finir, tu aurais un conseil à donner ou un message à faire passer aux nouveaux de Transistor qui vivent leur premier direct ?
Il faut faire des choses qui vous amusent, en fait. Il faut profiter de ça comme un tremplin pour interviewer les gens que vous avez envie d'interviewer. Faites toutes les choses. C'est tellement une expérience avec relativement peu de contraintes. Ça arrive quand même pas très souvent. Enfin, je t'ai dit, mes expériences suivantes, que ce soit dans une radio communautaire à Montréal ou que ce soit à France Culture, j'avais quand même un choix limité sur les personnes que je pouvais interviewer ou faire une séquence météo. Et ça, il y a quand même une liberté. Je ne sais pas si vous avez un rédacteur en chef, mais en gros, une rédactrice en chef, mais tu peux quand même te permettre, si tu as envie de faire une séquence météo, un journal météo, fais un journal météo ou d'interviewer, je ne sais pas qui, pas forcément de rester dans sa zone de confort, en fait, de tout essayer, puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas, et quand même, l'enjeu est assez limité, mais je pense que c'est tellement une bonne opportunité pour essayer des choses et essayer des choses amusantes.
Merci beaucoup, Anne-Laure.